Les enjeux internationaux.
6h50 sur France Culture. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Werner. Donc, comme promis, l'Irak, la poursuite du chaos avec notre invité Pierre Razou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche de l'école militaire. Alors, la situation, évidemment, il y a une banalité. La situation actuelle de l'Irak est largement dépendante des conséquences de la guerre d'invasion américaine de 2003. Il faut se souvenir que le sort de proconsul américain, quelques semaines après la victoire officielle, la victoire militaire, avait aboli le parti unique, l'armée, les services de renseignement, ce qui offrait à la minorité sunnite auparavant au pouvoir, donc du fait de son exclusion, les conditions d'une rébellion qui s'est en partie cristallisée au profit de l'État islamique, qui s'appelait au départ l'État islamique en Irak et au Levant. Puis il y a eu une guerre civile terrible pendant des années, évidemment en Irak, et puis les pleins pouvoirs qui ont été finalement donnés avec le consentement américain à la majorité chiite, premier ministre Maliki, et tout cela attisa les rivalités confessionnelles. C'est évidemment, comme on pourrait en dire, un champ de ruines au fond d'Irak. Alors, qu'est-ce qui se passe en interne aujourd'hui ?
Je crois que d'abord, il faut comprendre qu'on a une grande lutte pour le pouvoir, ce qui est un grand classique en Irak, c'est-à-dire que depuis le général al-Bakr, puis Saddam Hussein, toutes les personnalités au pouvoir essayent de capter un maximum d'avantages, à commencer par les prébendes économiques. Pourquoi ? Parce que l'Irak, aujourd'hui même, reste malgré tout un des plus gros producteurs pétroliers au monde, en produisant à peu près 3 millions de barils par jour, à peu près, et reste ou détient les quatrièmes réserves mondiales de pétrole. Donc tout ce pétrole crée beaucoup d'argent. Qui dit beaucoup d'argent dit beaucoup de corruption. Et le pouvoir, ou la majorité au pouvoir chiite, en l'occurrence aujourd'hui, au pouvoir bien entendu, se déchire pour se partager le gâteau. Donc on a à la fois une rivalité des partis politiques, on va dire classiques, chiites en l'occurrence, face au peuple, face au reste du pays. Et on a un véritable bestiaire, si vous me passez l'expression, de bêtes politiques qui sont en embuscade, qui voudraient le pouvoir ou qui essayent de peser sur le pouvoir. Vous avez mentionné Maliki, donc l'ancien Premier ministre qui, lui, maintenant, après avoir été éjecté de la place de Premier ministre, a été nommé vice-président, mais qui est en embuscade et qui aimerait bien retourner au pouvoir pour satisfaire sa clientèle. On a bien entendu Moqtada al-Sadr, qui était surnommé Billy the Kid par les Américains pendant la période donc de la guerre civile et de l'occupation américaine. Pourquoi ? Parce qu'il avait une grande milice qui s'appelait donc l'armée du Mahdi, à peu près 25 à 30 000 hommes, et donc avec laquelle il a mené la vie dure dans un premier temps aux Américains, puis dans un deuxième temps aux chefs des tribus sunnites et aux milices sunnites. On a l'actuel Premier ministre, donc Haïdar al-Abadi, bien entendu, donc lui aussi chiite, bien sûr, qui aimerait bien rester au pouvoir. Tout ça sous la tutelle bienveillante du grand Ayatollah Sistani, qui, malgré son âge élevé, puisqu'il a 85 ans, tire un petit peu les ficelles, un peu comme à l'époque en Iran, l'Ayatollah Khomeini le faisait par rapport à tous ceux qui ont pris le pouvoir sur place. Donc on voit bien qu'il y a un système aujourd'hui de blocage, où on a les élites, entre guillemets, qui essayent de se partager le gâteau, et le peuple, aussi bien le peuple chiite, au passage que le peuple sunnite, qui lui crie et qui essaye d'en avoir plus. Raison pour laquelle Moqtada al-Sadr, il y a une dizaine de jours, a occupé pendant 48 heures ce qu'on appelle la zone verte, c'est-à-dire le cœur de la zone gouvernementale irakienne.
Une sorte de bunker.
Une sorte de bunker et des ministères et des ambassades, pour faire pression sur le pouvoir et surtout sur le Parlement, pour leur dire ça suffit, maintenant il faut changer les règles du jeu, il faut si possible aller peut-être vers de nouvelles élections, nommer un Premier ministre qui justement permette de lutter contre la corruption et de lutter contre le sectarisme en créant de nouveaux équilibres.
Alors sectarisme, c'est quand même un terme que vous conservez ou que vous privilégiez ?
Ah oui, parce que l'Irak aujourd'hui reste finalement un grand puzzle, aussi bien ethnique que sectaire. Vous avez à peu près donc 80% d'Arabes, 20% de Kurdes. Et en deuxième grille de lecture...
Kurdes qui sont non-arabes mais qui sont sunnites.
Qui sont majoritairement sunnites, mais dans lesquels vous avez aussi des chiites et dans lesquels vous avez aussi quelques chrétiens. Donc, et vous avez donc 97% de musulmans, 60% de chiites, 37% de sunnites et 3% de chrétiens qui restent encore et qui demeurent sur place.
Donc, quand ils le peuvent.
Donc évidemment, on voit bien qu'il y a des rivalités terribles parce que les sunnites, la minorité sunnite a exercé le pouvoir pendant finalement à peu près 40 ans. Et donc, depuis la chute de Saddam Hussein et la chute du régime bassiste, évidemment, les chiites estiment que leur temps est venu de pomper et d'utiliser les ressources du pays et de capter la totalité du pouvoir.
Et maintenant, les influences, c'est plus que les influences, les présences régionales. On pense tout de suite évidemment à l'Iran.
Bien sûr, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, et il y a Daesh qui est à côté, qui est enfin à la fois sur le territoire irakien et en même temps en Syrie. Il y a les Turcs et les Américains. L'Iran, bien sûr, parce que l'Iran, c'est à la fois le grand adversaire historique, les Perses contre les Arabes, la guerre Iran-Irak. C'est le fait en même temps que tout le monde se positionne, enfin, au sein de la majorité chiite en Irak, tout le monde se positionne finalement ou bien vraiment pour l'Iran, ou bien modérément pour l'Iran, voire même pour certains plutôt contre l'Iran. Par exemple, le grand ayatollah Sistani, qui finalement est beaucoup plus titré que les clercs et que le clergé iranien, aimerait bien devenir et se considère de fait comme finalement le plus grand ayatollah chiite du monde chiite aujourd'hui et qui aimerait bien
exercer une certaine prépondérance.
Une responsabilité morale sur tout ça. Fondamentalement, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que on ne pourra pas sortir sur le plan géopolitique de la crise irakienne sans une triple entente, une entente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui ont beau se détester, mais qui un jour devront s'entendre, ne serait-ce que peut-être pour faire remonter les prix du baril, une deuxième entente entre les États-Unis et la Russie, et une troisième entente entre la Turquie et l'Union européenne, parce que finalement, ce sont les Turcs qui détiennent quand même de nombreuses clés dans cette crise-là.
Alors, c'est un enjeu régional très évolutif, finalement, parce qu'il y a non seulement le chaos, effectivement, de l'Irak, il y a le chaos de la Syrie. Là, il y a eu un rapprochement tout à fait net entre les États-Unis et la Russie à la fin de l'année dernière sur le dossier syrien, qui a permis d'ailleurs l'ouverture d'un processus de paix sous houlette de l'ONU. Donc, il y a quand même des rapprochements qui se dessinent.
Oui, c'est sûr.
Et puis l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, ou on pourrait dire entre Bruxelles et Ankara, et entre Berlin et Ankara.
Oui, et on voit bien qu'il y a un nouveau grand jeu qui est en train de se mettre en place dans la région, avec finalement l'administration américaine, qui est peut-être finissante, mais qui clairement, de facto, reconnaît des zones d'influence. C'est-à-dire que, de fait, l'administration américaine, au lieu d'être comme sous la période George W. Bush, voire même la période Clinton, très intrusive, très offensive, allant poser ses pions un petit peu partout, dans la zone iranienne, dans la zone russe, etc. Là, l'administration américaine reconnaît de fait une sorte de ligne rouge, de ligne de front, en quelque sorte, qui passe par l'Iran, l'Irak et la Syrie, et reconnaît de fait que l'Iran, l'Irak et la Syrie, c'est sous influence, on va dire, russo-iranienne ou irano-russe, et qu'elle-même cherche à faire du containment autour, donc l'administration américaine défend ses positions, notamment au Liban, notamment dans les pays arabes, notamment dans les marchés du Golfe, mais en même temps est beaucoup plus conciliante, beaucoup plus réaliste face à la Russie et face à l'Iran.
Zone d'influence, ça rappelle des souvenirs, c'est les accords Sykes-Picot dont on dit jamais qu'ils n'ont jamais été appliqués, mais qui ont donné lieu quand même donc à l'instauration des mandats.
Tout à fait.
Et ça pose houlette de la Société des Nations.
Bien sûr, et ça pose la question en fait des frontières au Moyen-Orient, parce qu'un jour ou l'autre, et pour solutionner la crise, il faudra bien trouver une issue pour les sunnites à la fois d'Irak et de Syrie. Car si beaucoup d'entre eux ont rejoint Daesh, c'est qu'ils ne perçoivent ou ils ne se perçoivent plus aucun avenir politique, ni en Irak, ni en Syrie.
Pierre Azou, merci. En tout cas, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Demain, justement, cela va bien. La Turquie avec Didier Billion et l'axe sera Ankara, Bruxelles.